With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui reste tabou, la sexualité des seniors. À partir de la dernière enquête Becoming pour APEF intitulée « Jeunes, vieux et amoureux, enquête sur les Français et l'amour ». Comme dans de nombreux autres sondages sur la population française, le plaisir sexuel se révèle important pour toutes les catégories d'âge. Mais il est plus important chez les 60-70 ans que chez les 18-24 ans. La sexualité est contrée dans l'amour, surtout pour les hommes et beaucoup moins pour les femmes. On parle de cette enquête et plus largement de la question de la sexualité chez les seniors avec Véronique Caillado, ingénieure de recherche en sciences humaines spécialisée dans les questions du vieillissement et de la vieillesse au sein de l'Institut WeCare. Bonjour Véronique Caillado. D'après cette étude sur les Français et l'amour, la sexualité est plus importante pour les plus de 60 ans que pour les moins de 25 ans.
Par rapport aux attentes vis-à-vis de l'amour, effectivement, dans cette étude-là, c'est ce qui ressortait quand on leur demandait, donc à toutes les classes d'âge, qu'est-ce qu'ils attendaient par rapport dans la relation amoureuse. Donc, c'est pas en priorité le plaisir sexuel, mais on a été étonnés de voir que parmi, donc, on arrive au quatrième rang à peu près des réponses, le plaisir sexuel apparaît plus important, effectivement, chez les seniors, chez les plus âgés, que chez les plus jeunes. On est à peu près à 34% chez les 60-70 ans et on est à 21% pour les 18-24 ans.
Les moins de 35 ans seraient moins intéressés par cette pratique sexuelle. Est-ce qu'on peut déjà l'expliquer ?
Peut-être c'est une forme d'explication dans une étude qu'on avait menée en 2000 sur la sexualité à proprement parler. En fait, il n'y avait pas forcément de différence marquante au niveau des âges par rapport à la place de la sexualité parmi les plaisirs de la vie. Généralement, c'était autour de 75%. Les personnes répondaient, quel que soit leur âge, que ça faisait partie des plaisirs les plus importants de la vie. Par contre, il y avait des tendances qui démarquaient un petit peu les plus âgés par rapport aux plus jeunes. Et parmi ces tendances, c'est la fréquence, une fréquence qui est un peu moins importante avec le vieillissement. Mais on avait été particulièrement marqués par un résultat, c'était les écarts entre les deux extrêmes des classes d'âge, donc les 18-25 ans et les plus de 70 ans, pour ceux qui ne pratiquaient pas, qui n'avaient pas de rapport sexuel. Finalement, la part était plus élevée, quasiment équivalente, mais plus élevée chez les 18-24 ans que chez les plus de 70 ans. Donc, ça interpellait un petit peu par rapport au fait de voir un petit peu le vieillissement comme un affaiblissement de la libido, du désir, puisque ça montrait que finalement les différences entre les âges n'étaient pas si marquées que ça et que ce n'était pas l'âge en tant que tel qui pouvait tout expliquer.
On a eu France Ortelli dans un précédent podcast qui nous parlait de la sexualité. Là, pour le coup, des jeunes et qui avaient montré, en repérant, en faisant une étude documentaire, que la pratique sexuelle, en tout cas ce que les jeunes en disaient, c'était de moins en moins important dans le monde occidental. Et elle l'expliquait par des multiples facteurs, notamment l'anxiété générale, la finitude du monde ou encore la prise dans la vie de tous les jours, l'emprise, on va dire, des écrans notamment, dont réseaux sociaux, mais aussi information et compagnie. Une fatigue générale. Je continue sur cette sexualité qui compte dans l'amour. Pour près d'un tiers des seniors, c'est surtout vrai pour les hommes plutôt que pour les femmes.
Oui, c'était effectivement quelque chose qui ressortait. D'ailleurs, je dirais même que la différence de sexe est peut-être plus importante que la différence au niveau des âges dans la manière d'appréhender la sexualité et l'amour. Et effectivement, en termes de est-ce que le plaisir sexuel est important dans l'amour ? Oui, c'est le cas pour généralement plutôt les hommes âgés que les femmes âgées, effectivement.
Je prends un chiffre de votre étude, donc c'est important pour les hommes à 37%, beaucoup moins pour les femmes à 16%. C'est vrai qu'il y a un gap de 20 points, ce qui est très important. Quand
on pose la question à tout et chacun, est-ce que vos parents ont une sexualité, il y a toujours un moment de malaise. Est-ce que c'est encore difficile pour notre génération, les plus jeunes, de penser que nos parents, ceux qui ont vécu ou qui ont connu plus ou moins 68, ont une sexualité active ?
Oui, je pense qu'effectivement, dans le rapport à la sexualité, il y a un rapport de génération. Les choses évoluent et tout ce qu'on appelle les boomers, les baby-boomers qui sont nés après-guerre, dans la génération d'après-guerre, ont un rapport à la sexualité beaucoup plus émancipé que les générations précédentes. Mais malgré tout, je pense qu'en vieillissant, il y a une espèce il y a moins de contraintes. Le fait d'être un peu plus en marge de la société, on a moins d'exigences vis-à-vis de soi, de la part de la société. Et donc, du coup, on est quand même un peu plus libéré. Donc, même si on a du mal à envisager, ce qui est tout à fait normal, la sexualité de ses propres parents, que la nouvelle génération des boomers est peut-être un peu plus libérée, et notamment les femmes, la liberté acquise par les femmes, je pense que les générations plus anciennes, qui sont autour des 85 actuellement, elles ont quand même, alors on ne veut pas le voir, mais elles sont quand même assez émancipées, parce qu'elles ont moins de contraintes, que peut-être aussi avec des troubles cognitifs qui peuvent apparaître, et bien, il y a une sorte de lâcher prise par rapport à toutes ces normes et ces exigences qui ont pu construire leur vie auparavant.
J'entends dans votre discours qu'il y a une liberté des pratiques qui est induite, alors je ne sais pas si en partie ou tout en partie, par la médecine, les possibilités pour les anciens d'avoir une vie sexuelle active.
Ça fait un soutien un peu plus important que par le passé, effectivement, des soutiens médicamenteux ou autres. Mais je pense que ce qui est important aussi, je me permets de le rajouter, c'est qu'il n'y a pas une sexualité. Forcément, on est tous on a des sexualités différentes selon entre individus, mais pour nous-mêmes, en fonction des étapes de la vie, on n'a pas du tout le même rapport à la sexualité en termes d'intensité, en termes de ce que ça procure dans la vie, et puis en termes de pratiques également, c'est pas les mêmes pratiques au cours de la vie. Et c'est vrai que associé à la vieillesse, il y a beaucoup de transitions identitaires, c'est-à-dire que des étapes importantes dans l'image de soi qui sont secouées. On n'a plus la même place, on n'a plus le même rôle, on a des capacités qui évoluent, et tout ça, ça atteint l'image qu'on a de nous-mêmes, donc des forts moments de transition, et qui sont associés aussi à des changements, des transitions plus libidinales d'une certaine manière. Et ce que je trouve justement intéressant quand on aborde la sexualité des plus âgés, c'est qu'on n'est plus forcément dans un rapport de sexualité, performance, pénétration, génitale, puissance, un petit peu sur le modèle masculin, et qu'il y a une évolution vers une sexualité plus symétrique au niveau des rôles, avec le corps plus érogène tout dans sa totalité. Voilà, et c'est aussi la sexualité qui évolue, c'est-à-dire qu'on ne transpose pas les mêmes choses selon les périodes de la vie.
On le rappelle, d'ailleurs, on a fait pas mal d'épisodes de Tout s'explique. La sexualité ne se résume évidemment pas à la pratique pénétrative. Il y a mille et une façons de pratiquer le sexe, et évidemment la pénétration et une parmi 999 autres. Passons aussi à cette question de la sexualité. Est-ce qu'elle n'entraînerait pas une révolution sociétale sur la représentation de la vieillesse ?
Ça serait une bonne chose.
Parlons de révolution.
Parce qu'on a tellement tendance à voir la vieillesse et le vieillissement comme un déclin, une dégradation totale de tout l'être, en fait. C'est à la fois physique, le désir, l'envie, être avec l'autre, le rapport à l'autre. On a l'impression que tout décline. Alors que je pense qu'il est important de distinguer effectivement le corps instrumental, fonctionnel, qui subit les effets du temps, mais le corps expressif, celui des émotions, celui de l'envie, du rapport à l'autre, de l'intensité, tout ce qui est en lien avec ça, il ne meurt pas du vieillissement, en fait. C'est plutôt les conditions de vieillissement qui influencent ce qui influence ça, c'est-à-dire l'isolement. On parle beaucoup d'isolement pour les âgés, mais c'est une vraie réalité pour les plus âgés. La dépression, et puis on parle beaucoup plus de sexualité dans les EHPAD, par exemple, parce que vieillir chez soi, on est souvent plus isolé, donc c'est plus compliqué du coup de rencontrer un autre. En tous les cas, s'il y a quelque chose, c'est plutôt une autre forme de sexualité. Alors que dans les EHPAD, dans les résidents seniors, dès qu'il y a de l'autre, en fait, ça favorise les contacts et les rencontres.
Sur la perception en fait de la vieillesse, et donc notamment de la pratique sexuelle chez les plus anciens, il y a un discours, alors qui n'est pas forcément que médiatique, un discours général encore restrictif. Est-ce que vous voyez dans vos études que ce discours est en train de changer progressivement ?
Oui. Parce que d'une part, ça s'intègre dans une dynamique de bientraitance. Voilà, le respect du libre choix. Alors, c'est peut-être encore dans un microcosme lié à la gérontologie. Peut-être que ce n'est pas encore grand public et généralisé. Mais on entend cette exigence vis-à-vis des professionnels de ne pas être dans la remise en question systématique du consentement et donc du libre choix de la personne, de le poser comme d'emblée comme laisser la personne avoir des rapports avec quelqu'un d'autre, même si elle a des troubles neurocognitifs, même si voilà, on se questionne sur ça, il faut d'abord laisser cette libre expression et après, en gardant un éveil sur est-ce que, voilà, effectivement, il y a les marges de sécurité pour la personne, mais ne pas d'emblée interdire pour protéger, parce que c'est souvent ça qu'il y a derrière. Alors, les enfants, ça peut être une autre, protéger autre chose que son propre parent, parce que ça s'inscrit aussi dans une question matérielle. Les relations dans l'étude à PEF, ça ressortait par rapport aux femmes. Les femmes avaient plus de freins à présenter leur conjoint, leur nouveau conjoint ou partenaire, à leur enfant. C'est une difficulté pour le parent de faire accepter cette nouvelle union à leurs enfants. Mais alors, quand il y a des questions d'héritage qui se posent derrière, c'est encore plus complexe.
Et d'où l'importance de, alors je vais le dire, le mot d'éducation sexuelle à tout âge, que si on soit jeune et qu'on soit un peu plus âgé, mais aussi des outils de prévention, donc préservatifs, qui peuvent être utilisés aussi par les plus vieux, et ce qui n'est pas forcément une habitude qu'ils ont prise quand ils avaient, eux, 30 ans.
C'est ce qu'on entend effectivement de la part des soignants, que c'est une pratique peut-être qui n'est pas très intégrée dans une classe d'âge plus importante. Ouais.
Quelle est la perspective, selon vous, sur les Français et l'amour, les Français et la pratique sexuelle des plus de 60 ans, dans les 10 prochaines années ?
Alors, 10 prochaines années, on est en 2033. Alors là, les baby-boomers arrivent dans le grand âge et je pense effectivement que ça va être beaucoup plus intégré dans les institutions, tout ce qui va être accompagnement de la grande vieillesse, EHPAD ou autre lieu. Je pense effectivement qu'il y aura peut-être des chambres, qu'on acceptera qu'il y ait des chambres communes avec que des gens vivent en couple dans ces lieux-là, ça serait une très bonne chose. Et alors, pour se projeter sinon dans une relation plus amoureuse à domicile, est-ce qu'on serait dans, alors c'est ce qui ressort également de l'étude APEF, c'est est-ce qu'on serait dans de la décohabitation au niveau des lieux de vie. Hommes-femmes vivraient chacun chez soi, parce qu'il y a des taux de divorce beaucoup plus importants que par le passé, des couples qui se reforment. Effectivement, on peut se dire qu'il y aura une relation amoureuse plus à distance, ou en tous les cas plus au choix, chacun chez soi, et on se voit quand on a envie de se voir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, à le partager aussi sur les réseaux sociaux. Pour nous contacter, une seule adresse, audio@20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.